Voilà, donc on aborde l'aspect du travail qui est transformé par l'évangile avec la venue de Jésus-Christ, avec la régénération et la régénération de toutes choses. Cette question, en fait, en quoi le salut régénère aussi notre travail? Et on va aborder cet après-midi donc deux aspects. Le fait que l'évangile, au final, nous donne un autre maître dans notre travail, un nouveau maître. Et que l'évangile offre un nouveau sens à nouveau à notre travail. Voilà, on connaît tous ce passage par cœur, normalement, quasiment, hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernière parole de Jésus qui nous sont relatées dans l'évangile de Matthieu. Et ici, voilà, Jésus donne une mission à ses disciples, celle de parler, pardon, de lui partout et à tous, afin que chacun soit en prise, connaisse l'amour de Jésus-Christ et veuille le suivre. Que à leur tour, ils veulent être des disciples et grandir dans leur compréhension de ce que signifie être un disciple. De laisser toujours plus Jésus-Christ être le maître. Et en lien justement avec notre thème du travail, de notre activité quotidienne, qu'elle soit encore une fois rémunérée ou pas, c'est en fait cette question qu'on veut se poser, c'est quoi, que signifie être disciple de Jésus-Christ dans mon activité? En quoi le fait d'être un disciple agit dans mon travail rémunéré, agit dans ma retraite, agit dans le fait d'être parent, au foyer ou autre. Quelles sont les implications de l'évangile? Quelles sont les implications de la victoire de Jésus-Christ à la croix dans mon activité quotidienne? Et les apôtres abordent plusieurs fois cette question-là dans le Nouveau Testament et on va surtout prendre un passage maintenant. C'est dans Colossiens 3. Je vous invite à le prendre. Colossiens au chapitre 3 et on va lire des versets 22. Au chapitre 4, verset 1, on est donc dans cette table de la famille, avec la question mari, femme, père, enfant. Et ici, on est sur la question esclave, maître. Et voilà ce que Paul écrit. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Alors c'est clair qu'aucun d'entre nous n'est esclave et aucun d'entre nous n'a des esclaves à ma connaissance. Donc on peut se poser si ce texte s'adresse légitimement à nous. Est-ce qu'on peut le prendre pour nous? C'est vrai que Paul parle ici à des esclaves qui sont privés de leurs droits, parfois pris à la guerre, parfois des personnes qui sont vendues ou qui ont été vendues à cause de leurs problèmes économiques et qui, à l'époque, étaient considérées simplement comme des outils mobiles. D'accord? Donc, rien de plus qu'une pelle, mais l'avantage d'une pelle, c'est qu'elle peut bouger alors que la pelle ne bouge pas. L'esclave peut bouger. Et c'est clair que ces esclaves ne travaillent pas dans une entreprise avec un contrat, il n'y a pas de syndicat pour les protéger. Donc c'est vraiment un cadre particulier de l'esclavagisme. Et pourtant, Paul leur donne une ligne de conduite, n'est-ce pas? Une ligne de conduite pour eux qui sont dans une situation difficile et ligne de conduite qui découle de l'évangile. Et pour nous qui sommes dans une situation de vie quand même beaucoup plus facile, je pense qu'il y a des parallèles, des choses qu'on peut apprendre de cela. Et la première chose qu'on peut apprendre, ah, voilà, c'est que l'évangile nous donne un nouveau patron. Où que l'on soit, quel que soit notre travail, l'évangile nous donne. Quand on se convertit, on gagne pas seulement un sauveur, on gagne un seigneur, n'est-ce pas? Ce qui veut dire un patron aussi au travail. Et cela ressort assez fortement dans ces quelques versets. Il y en a combien là maintenant? 2, 3, 4, 5, 6. Sur 6 versets, Paul utilise 7 fois le terme maître, qui est traduit différemment. Dans ma version, c'est plutôt utilisé maître pour parler du propriétaire d'esclaves. Et parfois, c'est traduit plutôt de seigneur quand ça parle de Jésus-Christ. Mais c'est exactement le même terme. 7 fois ce terme de maître ou de seigneur. Et sur ces versets où Paul parle aux esclaves, ce terme est utilisé 5 fois, surtout pour parler des maîtres terrestres. Sur les 5 fois où on parle aux esclaves, Paul utilise 4 fois ce terme pour parler du maître, pardon, céleste, excuse-moi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul utilise ce même terme pour faire ressortir la chose suivante. Quand on s'est converti, quand on a été touché par l'amour de Jésus-Christ, quand on a compris notre péché, quand on a placé notre foi en Jésus-Christ, on a gagné un nouveau patron au travail. Au travail même. Quelque part, notre patron, notre chef, a été rétrogradé et on a un patron qui est venu au-dessus de ce maître terrestre. Ce grand patron, c'est Jésus-Christ. Et il dit exactement la même chose au maître terrestre, donc. Quand il dit maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Vous qui êtes patron, vous qui êtes directeur d'entreprise, vous qui êtes directeur d'un secteur, sachez que vous avez gagné, vous avez été rétrogradé et vous avez gagné vous-même un maître au-dessus de vous. Je sais pas si vous avez vu, c'est une illustration que j'ai déjà utilisée, je pense, ce film-là, Lord of War. C'est un vieux film, n'est-ce pas? Mais qui est très intéressant, qui nous parle du trafic des armes, donc il y a quelques années, tiré d'une histoire vraie, trafic d'armes dans les conflits actuels. Et ce trafiquant d'armes est joué par Nicolas Cage, qui se dit de tradition juive. A priori, c'est pas vrai, mais ça lui plaît de le croire. Et à un moment donné, son frère lui dit, mais pourquoi t'es toujours en train de porter un chapeau? Arrête de porter un chapeau, ça te sert à rien, ça te va mal. Et il lui dit, je porte un chapeau pour la chose suivante, pour me rappeler qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Alors, c'est complètement incohérent, alors qu'il n'arrête pas de vendre des armes pour massacrer tout le monde, mais il a besoin de se rappeler, au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Je ne suis pas le maître de ma vie. Il y a quelqu'un qui gère au-dessus de moi. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Rappelle-toi que tu sois employé, que tu sois cadre, que tu sois capitaine d'industrie, que tu sois parent au foyer, bénévole dans une association. Tu as un nouveau patron au-dessus de toi. Et ce patron s'appelle Jésus-Christ. Et Paul insiste dessus, n'est-ce pas? Verset 24, quand il parle à ses serviteurs sur leur manière de travailler pour leur maître, il dit, servez Christ, le Seigneur. Il dit pas, servez mieux votre maître, Paul, Jacques, Pierre. Non, non. Dans votre travail, servez Christ, le Seigneur. Donc, dans notre activité, que notre tâche soit facile ou pas, qu'elle soit pénible ou pas, on sert avant tout Jésus-Christ. Et ça, c'est la grande nouveauté quelque part ici, quoi, grande nouveauté, grande remise en avant, c'est ce qu'on avait vu dans Genèse 1 et 2, mais remise en avant par l'Évangile. Nous servons Christ, c'est-à-dire celui qui est venu au nom de Dieu pour tout réconcilier. Il réconcilie pas seulement notre personne avec Dieu. En fait, il réconcilie notre travail avec Dieu. Il réconcilie notre attitude au travail avec Dieu. Il réconcilie nos relations au travail avec Dieu. Il réconcilie toute notre vie. Et ça, c'est important que Paul, comme Paul le met, il le met aussi dans Tite, si je me souviens bien. On a été régénérés, n'est-ce pas? Cette régénération, c'est pas seulement la régénération de notre âme, mais c'est la régénération de tout notre être, de toute notre vie, de tous les domaines et du travail, y compris. Dieu ne s'intéresse pas que à notre âme, il s'intéresse à toute notre personne. Et le verbe ici que Paul utilise pour parler du service est intéressant à plusieurs niveaux. Première chose, c'est de ce verbe d'où est tiré le nom esclave ou serviteur, n'est-ce pas? Verset 22, serviteur, c'est exactement ce terme qui est utilisé en verbe après pour dire de servir, servir Christ. Donc Paul insiste fortement pour dire que même si on est esclave, même si on n'est pas considéré par les hommes, même si pour les autres on n'a aucune valeur, en fait, on sert Jésus-Christ avant tout. Et on sert le royaume de Dieu. Ce qui veut dire qu'avant d'être esclave de maître humain, nous sommes esclaves du maître divin. C'est à lui que nous appartenons. Et c'est en fait à ses ordres que nous obéissons. Quand ben, je vais soigner du monde à l'hôpital, quand je vais construire des voitures à Peugeot, quand je vais conduire des camions pour différentes choses. Et Paul, ce que je trouve intéressant, c'est le deuxième point sur ce verbe servir, c'est que Paul utilise ce même verbe dans d'autres cadres. Par exemple, hop, voilà, il dit ceci en Acte 20. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, vous savez comment je me suis mis, pardon, comment je me suis tout le temps conduit avec vous. Donc, c'est Acte 20, j'ai oublié le 4, c'est le discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse. Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie? J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Dans quel cadre ici Paul utilise ce terme servir, qu'il utilise exactement pour les serviteurs, pour les esclaves? Dans quel cadre ici il parle de ce terme servir? Annonce l'évangile, effectivement, on est plus dans le cadre de la mission. Effectivement. Comment j'ai servi le Seigneur? Ici, c'est dans le cadre de la mission. Autre texte, Galates 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Quel est le cadre ici dans lequel s'applique ce mot de servir, ce terme de servir, ou d'être serviteur? C'est exactement le même terme. Dans l'Église, n'est-ce pas? Dans les relations les uns avec les autres. Comment? Là, il n'y a pas de maître terrestre. Ouais. Il y a toujours le même maître céleste. Ouais. Autre cadre, 1 Thessaloniciens, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et ici, dans quel cadre il en parle de ce terme de service? Le culte, ouais. Effectivement, on est dans le cultuel ici, dans l'adoration. Et a priori, on est autant dans l'adoration, le cultuel individuel que communautaire. Et pourtant, avec ces différents contextes, Paul utilise le terme servir avec la même force. Que ce soit dans la mission, que ce soit dans les relations dans l'Église, que ce soit dans notre adoration, et que ce soit au travail, en tant qu'esclave. Et Paul est en train de nous dire au final, en fait, on sert Dieu autant quand on vient au culte que quand on fait un travail pénible, dur, non valorisé, esclave. Quand on ne vaut rien aux yeux des autres, on sert autant Dieu. Et on le sert autant en étant dans notre travail, que pour quelqu'un qui part à l'étranger en tant que missionnaire. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il n'y a pas de meilleur travail ou pas, il n'y a pas de meilleure adoration ou pas, il n'y a pas de meilleur service pour Dieu qu'un autre. Mais tout cela, Dieu nous appelle à le faire avec cette même attitude, cette redevabilité, cette reconnaissance, ce désir d'honorer Dieu en toute chose. Oui. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais tu as raison, c'est une bonne question. Donc clairement, encore une fois, ce travail fait partie de notre culte, notre vie de disciple. Et Paul est en train de nous dire, comme on est à l'église, soyons au travail. Mais comme on est au travail, soyons à l'église. et dans notre relation seul à seul avec Dieu. Ce que veut dire pas d'hypocrisie. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup quand, c'est l'avantage d'être ancien pasteur, c'est quand on va visiter les personnes. C'est qu'on voit qu'il y a l'apparence du dimanche et il y a la réalité de la personne chez eux. On ne s'habille pas de la même manière. Et au final, le dimanche ne permet pas de connaître quelqu'un. N'est-ce pas? Parce que, alors, je ne dis pas que les personnes sont hypocrites. Hein, moi aussi, je mets une chemise le dimanche. Les enfants me disent, ah, papa, tu parles aujourd'hui, tu as mis ta chemise. Parce qu'en général, il n'y a pas de chemise. Mais effectivement, on fait un effort, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est chez soi, quand on est à l'aise, qu'on montre vraiment qui nous sommes, au final. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu veut nous toucher aussi et nous appeler à être vrais, authentiques et à le servir de la même manière partout. Jésus est notre maître, notre ultime patron, et cela change tout, nous dit Paul. Deuxième élément, c'est que l'évangile transforme notre attitude aussi et notre motivation au travail. Verset 22. Serviteurs, obéissez. Et pas juste obéissez. Obéissez en tout. En tout. L'évangile transforme notre rapport à l'autorité. Et ça, c'est chaud. Pas parce qu'on est français, mais parce que de manière générale, en tant que pécheur, en tant que être humain encore touché par la rébellion, on n'aime pas l'autorité, n'est-ce pas? Qui de nous se soumet toujours avec grande joie à l'autorité civile, à l'autorité dans l'église, à l'autorité dans la maison? Ouais, pas grand monde, hein. Et c'est vrai que l'autorité est beaucoup, beaucoup rejetée actuellement. Parce qu'elle est vue comme suspecte. Parce qu'elle est vue comme pervertie, abusant de sa position, opprimant les personnes. Et encore une fois, dans tous les domaines. Et si, en général, on va parler d'autorité, et là, certainement, il y a peut-être des réactions qui vont monter en vous quand il y a obéissant en tout, la réaction qui vient vite, c'est « Oui, mais... » Et si... Et c'est comme ça qu'on a tendance à réagir, n'est-ce pas? S'il y a abus, est-ce qu'il n'y aurait pas telle ou telle exception? Et au final, c'est ce genre de réaction qui montre que, franchement, en nous, on n'aime pas l'autorité. On a du mal avec l'autorité. Et c'est vrai qu'il y a des abus. C'est vrai qu'il y a de l'oppression. Mais soyons clairs, si c'est vrai actuellement avec nos syndicats, avec nos contrats, avec tous les éléments de protection, c'était clairement vrai du temps de Paul avec des esclaves sans droit et sans rien. Et c'est à ces personnes-là que Paul dit « Obéissez en tout ». Ce n'est pas avec des personnes avec des syndicats et des contrats, des protections dans tous les sens. Et Paul ici nous replace dans un cadre d'autorité. Et il nous dit que l'autorité vient de Dieu. Vas-y. Oui. Non, pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Et même pour le... Ouais, exact, exact. Et ce obéissez en tout, au final, est une application concrète d'un verset qui était juste avant, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, faites tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Application, serviteur, obéissez à vos maîtres. Obéissez. Donc au lieu de tout de suite parler des exceptions qu'on peut vite citer pour s'extraire de l'autorité, en fait, Paul nous rappelle surtout ce que Dieu veut de nous vis-à-vis de l'autorité. Obéissez. Et il qualifie cette obéissance ici. D'abord de manière négative, verset 22, « Non seulement sous leurs yeux, obéissez en tout, non seulement sur les yeux. Ne soyez pas des lèche-bottes. Ne cherchez pas simplement au travers de ça votre avantage. Pas de travail superficiel non plus. Faites-le parce que c'est bien. Faites-le parce que c'est juste, encore mieux. Faites-le parce que Dieu vous le demande. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé pour ça. Pas pour être apprécié, pas pour être bien vu, pas pour faire du lèche-bot, mais pour bien le faire. Et de manière positive, il continue, verset 22 toujours, avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, avec générosité, avec une bonne conscience, avec un plaisir du travail bien fait. Même si le patron ne nous voit pas, Dieu nous voit et c'est pour ses yeux qu'on le fait. Même si c'est dur, même si c'est pénible, même si c'est pas reconnu. Et remarquons juste une chose aussi dans notre texte, c'est que Paul ici parle de travailler de tout notre cœur et de notre âme. Est-ce que ça résonne quelque part en vous par rapport à un autre passage? L'adoration. D'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. De la même manière que nous aimons le Seigneur, il nous appelle à agir ainsi envers les autres personnes. Donc, contrairement à un travail superficiel, à un travail motivé par l'argent, par la punition, par les obligations, Paul ici nous appelle en fait à une conscience du travail bien fait, à un service joyeux pour les personnes dans lesquelles on met toute notre attention, toute notre compétence et notre savoir-faire. Et Paul, Pierre, chapitre 2 de sa première épître, nous rappellera aussi de le faire, même si notre maître est difficile. Donc déjà le 8 mai, et s'il y a exception, on prend déjà un coup avec Pierre. Faites le même si votre maître est dur et sévère avec vous. Encore une fois, parce qu'avant cela, nous servons Jésus-Christ. On ne travaille jamais en fonction de l'être humain qu'on a devant nous. On travaille toujours en fonction du Dieu qui nous a sauvés, du Maître qui règne au ciel. En pratique, ça donne quoi? Je crois que ça veut dire bien réfléchir à utiliser notre temps. Que quand on est au travail, on est là au travail, pour bien travailler, pour faire la tâche qu'on nous a confiée. Donc être sérieux dans l'utilisation du temps qu'on nous a confié. Et c'est vrai que on peut vite glisser et déraper, là, n'est-ce pas? Avec les pauses excessives, avec le smartphone qui prend toute notre attention avec tous les petits messages. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, où en fait le temps de travail effectif d'un travailleur est extrêmement réduit à cause du smartphone. En fait, pas à cause du smartphone, à cause du fait qu'il regarde ses messages. Parce qu'à chaque fois qu'il regarde son message, en fait, il y a toute son attention, toute sa concentration qui est perdue. Et le temps de se remettre dans la tâche pour laquelle il est payé, il y a un grand temps qui s'est espacé. C'est juste quelques secondes pour lire un message, mais je crois que c'était 10-15 minutes pour bien reprendre le niveau de concentration où on en était avant d'avoir quitté notre travail pour lire le message. Et si c'est ça à chaque message qu'on lit, qu'est-ce qui reste de travail bien concentré, bien effectif pour le patron qui nous paye. Et c'est vrai que moi, je dois faire gaffe à ça. C'est vrai que quelque part, en tant que pasteur, l'Église me fait confiance sur la gestion de mon temps, n'est-ce pas? Et donc, c'est facile de gérer mon temps un peu comme je veux et quelque part, de pouvoir vite naviguer dans plein d'autres choses. Et là aussi, de faire vachement gaffe à mon temps. Le but, c'est pas d'avoir une montre devant moi, ni dans un sens, ni dans un autre, mais d'être honnête par rapport à l'Église qui m'emploie. L'Église m'emploie par rapport à un travail et je dois faire attention à une bonne gestion de mon temps. En pratique, ça veut dire aussi, je crois, ne pas négliger certaines tâches. On peut facilement repousser les petites tâches qu'on n'aime pas ou cacher les petites tâches qu'on n'aime pas ou donner à quelqu'un d'autre les petites tâches qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Ou en pensant que personne ne le verra. Mais il y a cet appel, je crois, à la conscience professionnelle. Claire, mon patron va jamais voir tout ce que je mets de côté. Mais il y a un patron qui le voit. Et ça, Dieu nous dit, en fait, Philippe, c'est pas pour les yeux des autres que tu le fais. C'est pour moi. Et si tu le fais pas, c'est pour moi que tu le fais pas. Alors voilà. Là, c'est maintenant dans chaque profession aussi de bien réfléchir à cela, hein. Il n'y a pas de moule. Mais attention, c'est pas une excuse pour négliger notre travail, notre appel. Et Paul va encore plus loin. Regardez versets 24 et 25. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. C'est avec Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. Paul, ici, nous place dans une perspective, encore une fois, future. Il nous parle de la gloire à venir, de la présence de Jésus-Christ lors de son retour. C'est là qu'on récoltera. Il dit, vous recevrez et on récoltera. Dans le pire des cas, à l'époque, pour un esclave, il pouvait absolument rien espérer de son patron, de son maître terrestre. Il pouvait juste espérer rester en vie, mais aucune attente de son maître terrestre. Mais Paul leur dit, vous avez de grandes espérances auprès de votre maître céleste. C'est auprès de lui que vous récolterez, c'est auprès de lui que vous recevrez. Mais en même temps, c'est un avertissement par rapport à notre attitude, à notre manière de travailler. On va récolter selon notre injustice. C'est ça que ça veut dire. Il agit dans le bien de David, ou tu veux dire qu'il va punir les amis? Et en fait, c'est quand même un principe qu'on retrouve assez souvent dans la Bible. Alors, par rapport à David, il faudrait regarder les textes à nouveau, là, je peux pas dire. Mais ouais, on fait confiance à la justice de Dieu. Mais Paul, ici, nous dit aussi, ouais, veillons à notre attitude au travail, veillons à notre manière de travailler, parce que Dieu le voit, et ça va avoir des conséquences dans l'éternité. Quelles conséquences? Bonne question. Mais clairement, on va pas aller dans la perte du salut. Je ne crois pas qu'il faille aller vraiment dans ce sens-là. Paul ne précise pas de quoi il s'agit, mais clairement, il y a cet avertissement pour nous dire la chose suivante, en fait. Notre manière de travailler démontre ou pas notre appartenance à Christ. Notre manière de travailler démontre ou pas notre appartenance à Christ. Est-ce qu'on fait une différence? Ou est-ce qu'on fait comme tous les autres? Et Paul repousse toute tentative ici d'excuse. Dieu ne fait pas de considération de personne. Dieu ne va pas favoriser les maîtres ou plus les enfoncer. Mais soyons clairs que Dieu ne va pas non plus excuser les esclaves. Et Paul dit ça premièrement à des esclaves, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas de considération de personne. Donc c'est pas parce que vous êtes esclave que Dieu pourrait passer plus de choses. C'est pas parce que vous êtes esclave que Dieu pourrait accepter que vous travailliez moins avec moins d'entrain ou que de temps en temps vous mettiez des petites choses dans la poche. Non. C'est pas parce qu'il y a ce statut d'esclave qui est présent, qui est dur, que Dieu autorise à faire le mal. Que Dieu autorise à tricher, à voler. Et qui va fermer les yeux sur notre attitude. Dieu est juste. Voilà ce qui devrait être notre motivation finale ultime pour travailler et bien travailler ici et maintenant. C'est que Jésus-Christ est notre vrai patron. Il n'y a pas de plus excellent, d'ultime et de vrai patron que Jésus-Christ. Même dans mon travail aujourd'hui, à Peugeot, à Rouffach et dans tout le reste. C'est lui le patron. Et de manière plus excellente encore, c'est lui qui va nous récompenser. En fait, c'est même pas la récompense du maître terrestre qu'on attend ici. Et alors, comme dit, les esclaves n'avaient aucune attente de leur maître terrestre. Mais Paul leur dit, travaillez bien, parce que même si vous n'êtes pas considéré, même si vous pouvez rien attendre de lui, en fait, vous pouvez attendre quelque chose de votre maître céleste. Et c'est lui qui va vous récompenser, même pour un travail ingrat, dur, difficile, pénible, non reconnu. Et ça ramène encore cet aspect-là. La réalité à venir n'extrait pas de la vie présente, mais au contraire nous implique encore plus dans notre vie présente. La troisième chose qu'on peut voir dans notre texte, c'est que l'Évangile transforme aussi notre gérance au travail. Ça nous donne un nouveau patron, spécialement pour les esclaves. Ça transforme notre attitude, notre motivation, mais également, ça transforme notre gérance. Elle transforme notre rapport à l'autorité aussi quand nous sommes en position d'autorité. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc quelque part, pour vous qui êtes patron, directeur, et voilà, il n'y en a pas ici. Non. Juste, toi, tu es directeur, mais d'une partie, d'une section, hein. Manager, voilà. Bon, ben, c'est pas grave. Mais là aussi, en fait, Paul nous dit, encore une fois, on a été rétrogradé, on n'est pas le grand patron. En fait, on n'est qu'un gérant. On n'est qu'un gérant au service du propriétaire. Quel que soit notre travail, même si on est le grand patron qui avons créé une entreprise, nous ne sommes que le gérant au service du propriétaire. Et le propriétaire, le patron, c'est Dieu. Et quelque part, ça veut dire que Paul est en train de nous replacer dans quel contexte ici, dans quel cadre? Il nous ramène où? Dans le jardin. Il nous ramène dans le jardin. Vivez comme des managers, mais pas comme des propriétaires. Adam et Ève étaient les gestionnaires des biens de Dieu, et en tant que patron, Dieu appelle les patrons à être des gestionnaires. Que ce statut-là pour eux. Ce statut n'est pas là pour leur gloire, mais pour la gloire de Dieu. D'où cet appel à être juste et équitable, aussi donc en tant que patron, dans le sens de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque personne, de chaque employé, de chaque ouvrier. Et encore une fois, même chose quand on est dans une association ou quand on est parent au foyer. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont pénibles. Mais on est des gestionnaires. On n'est pas des propriétaires de nos enfants, n'est-ce pas? On est des gestionnaires. Et cette invitation à bien gérer et à reconnaître la valeur intrinsèque de chacun de nos enfants, même si franchement, de manière assez étonnante, ils sont différents de nous, même s'ils sortent de ce moule-là. Heureusement pour eux, hein. Et donc ça change les relations et la gestion. Aux yeux des maîtres, l'esclave ici ne doit plus être un simple outil animé. Mais le maître doit apprendre à voir son esclave différemment, et c'est chaud parce que ça va à l'encontre de la culture. On a grandi dans une culture qui dit « ce gars il a perdu, c'est un loser, il ne vaut rien ». Il a perdu la guerre, il mérite d'être esclave. Il a été ruiné, il mérite d'être esclave. Et parfois, on peut agir comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas très... Hein? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et même parfois, dans nos rapports, même à la couleur de peau, il n'y a pas si longtemps que ça, un noir méritait d'être un esclave. Et quels sont les relents de ça aujourd'hui? Parfois, on a des relents racisme dans nos vies, n'est-ce pas? Qui font peur à voir. Hein, ou sexisme, ou autre. On oublie que de donner cette valeur. Et Paul nous dit, parce que tu es maître, mais pas le maître ultime, redonne à chacun sa véritable valeur. Être juste et équitable signifie ici, de ne pas agir en fonction de la tête du gars. Pas de favoritisme dans l'entreprise. Pas de préférence ou d'amitié. Mais d'agir en fonction du travail effectué. Est-ce qu'on valorise l'attitude? Est-ce qu'on valorise la démarche? Est-ce qu'on valorise l'honnêteté? C'est ainsi de reconnaître leur travail, leur effort, et de le payer à sa juste valeur. Et là, on revient sur tous nos débats actuels. Hein. Pourquoi les femmes seraient moins payées que les hommes? Il n'y a pas de raison. Excusez-moi, je suis à la côte de quelqu'un, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Elles ont la même valeur. Elles font le même travail. Elles ont les mêmes compétences. Parfois, elles ont les meilleures compétences. Et c'est pas en fonction du sexe qu'elles doivent être payées différemment. Mais de reconnaître ici le travail de chacun. Mais ça veut dire aussi parfois reconnaître, pardon, prendre des décisions difficiles. Exemple de donner des avertissements. Même un patron chrétien doit donner des avertissements parce que le travail est mal fait, parce qu'il y a abus du matériel, abus du temps, etc. Et parfois, ça veut dire renvoyer une personne pour mettre à la place quelqu'un qui veut travailler. Donc Dieu donne des fonctions d'autorité pour accompagner, pour diriger, pour prendre soin. Et en tant que maître, ici, il devra rendre compte à Dieu de sa gérance. Pourquoi? À cause de ce verset qu'il y avait juste avant. Car Dieu ne fait pas de considération de personne. Si c'était vrai pour les esclaves, c'est vrai aussi pour les maîtres. Ce qui veut dire que soit dans la direction ou dans le service, le croyant sert uniquement Jésus-Christ et personne d'autre. Pour la gloire unique de Jésus-Christ et non pas pour notre gloire à nous. Donc l'évangile ici transforme, comme dit, toute notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ réclame sa seigneurie sur tous les domaines de notre vie. Quel que soit notre statut, quel que soit notre travail, quelle que soit notre activité. Et il vient même ici transformer un système horrible qui était l'esclavagisme. Et c'est intéressant, hein, Paul ne dit pas, parce que vous êtes chrétien, mettez tout ça à plat. Non, parce que vous êtes chrétien, transformez ça de l'intérieur, par des attitudes renouvelées, en comprenant qui est le véritable maître. Et effectivement, avec le temps, l'esclavagisme a éclaté, en tout cas à certains endroits. Profitez-en aussi. Ouais, tout à fait. C'est intéressant, ouais, effectivement. Voilà, il ne condamne pas à être esclave à vie. Non, profitez-en. Mais si tu le restes, fais-le dans une bonne attitude, même si le patron n'est pas chrétien. Et en étant honnête, je pense que c'est pas forcément plus facile quand le patron est chrétien. Je crois que vous pouvez demander à Taïeb. C'est pas dans une structure chrétienne que c'est plus facile de travailler, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est l'Église. Pourquoi? On a tellement d'attentes élevées dans l'Église avec les chrétiens, et on les a pas avec les non-chrétiens. Donc on les accepte, les non-chrétiens. Mais on oublie parfois que dans l'Église, ben on est en chemin aussi. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a des réactions qui ne nous conviennent pas. Mais c'est pour ça qu'on va attendre. Ah, faire attention, c'est qui le patron? Qui c'est que je viens servir quand je viens ici à Vitanheim? Est-ce que c'est Josué? Est-ce que c'est le programme des anciens, du conseil d'église? Ou quelque part, je viens mettre ma personne au service de l'ultime patron? Tout en sachant que ça va coincer de temps en temps. Et ça va coincer, pas à cause de Josué, aussi à cause de Josué, mais pas à cause de Josué, à cause de moi. Parce que je ne suis pas encore entièrement transformé et parce que j'ai du mal avec l'autorité. Et à cause de cela, j'ai besoin de ce genre de texte. Qui me dit Philippe, obéis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter, etc. Mais même là, dans la manière de discuter, comment on le fait? Et Dieu veut encore agir de la même manière aujourd'hui, la même manière qu'il a fait éclater l'Empire romain à l'époque. La même manière qu'il a fait éclater l'esclavagisme à l'époque. Encore aujourd'hui, par des attitudes transformées dans notre travail, dans notre activité, même par les plus bas de la société, Dieu veut transformer notre société. Il y a un message qui est excellent ici, qui est impressionnant, n'est-ce pas? C'est pas simplement en envoyant des missionnaires servir. C'est pas seulement en mettant en place des pasteurs pour servir. Mais c'est en étant transformé dans ma manière de servir dans mon travail, dans ma manière de servir dans ma famille, dans ma manière de servir dans mon association, dans ma manière de servir l'ultime patron partout où je suis. Et regardez comment Paul introduit cette section sur cette vie pratique du quotidien du disciple. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. où le Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire là où il règne, là où il est l'unique patron. Cherchez les choses d'en haut, et donc servez-le dans votre travail. Vous cherchez le royaume, vous cherchez à honorer Dieu, vous cherchez à lui plaire en toutes choses. Voilà les conséquences pratiques, voilà la manière de le faire. Donc c'est pas de planer à 3000 lieues, hein. C'est pas d'être toujours en train de lire sa Bible, et je suis pour la lecture de la Bible. C'est pas de toujours se réunir en tant qu'église et de faire cette différence entre ma vie religieuse sacrée et ma vie profane, mais c'est dans le quotidien. Servir Dieu, les projets de Dieu dans mon quotidien. Et si je prends le texte parallèle de cela, c'est dans Éphésiens, où il y a toujours ce rapport mari, femme, père, parent, esclave, maître. Paul introduit cela ainsi, chapitre 5, verset 15. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. » Et les conséquences pratiques, mari-femme, père-enfant, esclave-maître. Tu veux savoir si tu es conduit par l'esprit, si tu es rempli par l'esprit, Paul nous dit, regarde ta manière de travailler. Mais tu verras si tu es rempli de l'esprit et si tu dois être encore rempli de l'esprit. Et ce qui veut dire par rapport à ça, c'est que le Saint-Esprit nous équipe pour notre quotidien. Et on a tellement tendance à mettre le Saint-Esprit pour notre spiritualité, notre relation individuelle avec Dieu, ou pour nos émotions vis-à-vis de Dieu. Mais Paul nous dit non, non. Pour notre manière d'être un mari et une femme. Notre manière d'être un père et un enfant. Notre manière d'être un esclave et un maître. Le Saint-Esprit est là pour nous équiper pour notre quotidien. Il nous régénère pour servir Christ dans tous les domaines de la vie, y compris notre activité. Ça va par rapport à ce point-là? Un nouveau patron? Ouais, le Seigneur nous équipe et nous met dans des situations difficiles. Et il le fait exprès. Pour qu'on se confie en lui et que ce soit lui qui s'éveille en nous. Ouais. Ouais. C'est comme ça qu'il nous transforme. C'est quoi? C'est car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, n'est-ce pas, etc. Hein, on n'apprend jamais l'amour avec des personnes aimables. On apprend l'amour avec des personnes non aimables. On apprend la joie, pas quand c'est facile. On apprend la joie, notre valeur qui est que en Christ, au travail quand c'est pénible. Ouais. Je crois que si Paul et si Dieu a voulu dire ça à des esclaves, je crois qu'on a vraiment quelque chose à apprendre pour nous aujourd'hui.